Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous profitons du passage éclair à Paris de l'universitaire américaine Shoshana Zuboff pour la convier à un grand entretien afin de retracer son parcours, de revenir sur ses concepts fondamentaux et de les relire à l'aune de 2024 et des derniers soubresauts technologiques. L'âge du capitalisme de surveillance, son livre sorti aux États-Unis en 2019 et deux ans plus tard chez nous en France, est devenu un ouvrage majeur sur la critique du modèle économique des géants du numérique, une référence absolue sur la manière dont les GAFAM extraient et utilisent nos données personnelles et comportementales par des procédés qui nous échappent. Nous revisiterons les concepts clés de l'auteur, du surplus comportemental à la rente de surveillance, en passant par le pouvoir instrumentarien ou la division des savoirs. Comment ces phénomènes ont-ils évolué depuis 2019, une période pré-Covid et avant l'ère de l'intelligence artificielle générative? Qu'en est-il aujourd'hui de la prise de conscience citoyenne et de la menace que font peser les GAFAM sur nos démocraties? Peut-on néanmoins être optimiste et miser sur une plus grande maturité des utilisateurs? Que peut-on espérer du pouvoir politique entrer dans une phase de régulation avec notamment en Europe les règlements en vigueur du DSA et du DMA? En un mot, que reste-t-il du capitalisme de surveillance? Beaucoup de questions et une invitée de choix pour nous répondre. Shoshana Zuboff, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, merci d'avoir pris le temps de passer par le studio du Meilleur des Mondes. Vous êtes professeur émérite, aujourd'hui retraité à la prestigieuse Harvard Business School, autrice de trois livres qui ont chacun éclairé depuis la fin des années 80 une nouvelle ère de nos sociétés connectées. Et je rappelle que la traduction française du dernier, L'âge du capitalisme de surveillance, est à retrouver aux éditions Zulma. Vous êtes également membre de l'Observatoire international sur l'information et la démocratie, qui vise à ce que les citoyens reprennent le pouvoir et le contrôle de leur vie privée. Votre regard sera précieux pour analyser les grandes mutations technologiques de notre temps. Au programme également une chronique de Juliette Deveau en lien avec vos travaux. Juliette reviendra notamment sur les espoirs portés par les régulateurs des États-Unis à l'Europe. Le Meilleur des Mondes s'écoute à la radio ou quand vous le désirez en podcast sur l'application Radio France. C'est parti.
L'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait
« Big Brother is watching you. »
Big Brother vous regarde.
À partir du moment où le régime de contrôle qui apparaît dans les années 90 commence à se coupler avec l'outillage numérique, ça devient une puissance de feu colossale. On n'a jamais atteint des degrés de surveillance, de contrôle et de finesse de contrôle. On n'a jamais été aussi loin.
Facebook est accusé de cibler les gens en fonction de la couleur de leur peau, leurs origines ou même leur handicap.
Il semble que nous n'échapperons pas à une surveillance généralisée de nos faits et gestes, car c'est le cœur même du moteur capitaliste contemporain qui impose de récolter des données en grand nombre pour perfectionner ses modèles.
Oui, c'est vraiment un nouvel ordre mondial de la tech qui est en train de se dessiner quasiment sous nos yeux. L'IA devient centrale dans la recherche Google. Une véritable révolution baptisée Overviews, à base de raisonnement à plusieurs niveaux.
Et la démo la plus impressionnante, c'était celle d'une personne qui filme une pièce avec son téléphone portable et qui lui demande « T'aurais pas vu mes lunettes ?»
Alors, Shoshana Zuboff, pour celles et ceux qui découvriraient ce soir vos travaux et qui n'ont pas encore lu votre ouvrage de 700 pages, fruit de plus de 10 ans de labeur, en quelques mots, le capitalisme de surveillance, c'est quoi? Comment on peut arriver à le définir avec pédagogie et rapidement? Je sais que c'est un exercice compliqué.
Le capitalisme de surveillance, c'est une expression assez dramatique, mais en fait, c'est un concept technique. Il faut à la fois la surveillance et le capitalisme. Sans les deux morceaux du puzzle, ça ne fonctionne pas. Le capitalisme de surveillance a été inventé au cœur de l'urgence de la crise financière, dans ce qu'on appelle le moment où la bulle Internet a explosé. C'était autour de 2001, quand les startups de la Silicon Valley étaient confrontées à des difficultés financières très graves, parce que personne ne savait comment monétiser les données. Google était censé être les plus avancés, les plus intelligents, ils avaient les meilleurs moteurs de recherche, mais même eux ne savaient pas comment en tirer profit. Donc c'est sous ces pressions-là qu'il s'est passé deux choses, sous l'effet de ces pressions-là. La première, c'est une découverte, et la deuxième, c'est une très grande idée, une idée majeure. Cette découverte, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se frotte à Internet, quelle que soit la façon dont ça se passe, on laisse des traces de nos comportements, des signaux comportementaux qu'on a commencé à essayer de comprendre chez Google. Ces signaux sont pleins de données prédictives extrêmement riches. Et en jouant avec ces données, les gens de Google se sont rendus compte qu'ils pouvaient commencer à prédire le comportement des gens à partir des traces, des signaux qu'ils laissaient derrière eux. Mais nous, nous n'avons aucune idée que nous laissons ces traces. C'est quelque chose qui se passe sans qu'on en ait conscience. Et donc tout ça est là, dans l'obscurité. Alors qu'ils commençaient à apprendre à prédire nos comportements en récoltant tous ces signaux, Larry Page, l'un des fondateurs de Google, a eu une grande idée qui accompagne cette découverte. Son idée, c'est que les prédictions du comportement humain pourraient être vendues comme des marchandises, exactement comme nous vendons du pétrole. Exactement de la même manière dont nous vendons des poitrines de porc, de la viande, nous pouvons également vendre des prédictions de comportement humain futur. Et on pouvait les vendre en très grand volume. Il y aurait des marchés pour ça. Parce que partout dans le monde, et c'est vrai depuis le début de l'histoire, tout le monde veut connaître l'avenir. La première application, c'est ce qu'on appelle le taux de clic. On a utilisé l'agrégation de ces signaux comportementaux, on les a associés, et avec ce système d'analyse du taux de clic, on a réussi à vendre une prédiction aux publicitaires pour savoir qui allait cliquer sur ces publicités. Ça a révolutionné le monde de la publicité et ça a initié une trajectoire qui a permis non seulement à Google de faire de l'argent, mais aussi qui nous a conduit aujourd'hui au capitalisme de surveillance.
Et après, on a bien vu qu'effectivement, ce modèle initié par Google a été reproduit, réutilisé par d'autres entreprises. Ce modèle que vous expliquez assez bien, hein, de l'exploitation de ce surplus comportemental également, c'est-à-dire toutes ces données que nous laissons sans même le savoir. Vous êtes bien sûr une fine analyste du monde de la technologie. Vous avez dû voir les nouvelles annonces de Google qui envisagent de changer la manière de fonctionner de son moteur de recherche en intégrant les outils d'intelligence artificielle qui pourraient peut-être modifier le modèle économique de Google. Quel est votre point de vue ?
Now you're touching on one of the great pieces of theater. Vous touchez maintenant à l'un des grands bouleversements de notre époque.
We are all watching this spectacle.
Nous sommes tous en train d'assister à ce spectacle.
This is a spectacle of something new.
Un spectacle de quelque chose de nouveau, censé être nouveau, que nous appelons l'intelligence artificielle. D'un seul coup, cette intelligence artificielle, cette IA, serait de notre côté. Elle serait faite pour nous. Elle serait prête à tout changer. Mais voici ce qui se passe en réalité. Même dès l'année 2000, les fondateurs de Google parlaient de leur moteur de recherche comme notre intelligence artificielle. En 2001, chez Google, ils ont engagé Peter Norvig, un homme qui, à l'époque, travaillait pour la NASA. Il était considéré comme le premier expert mondial sur l'intelligence artificielle. Et ils ont demandé à Peter Norvig de faire de Google quelque chose qui soit 100% intelligence artificielle. C'était son travail. Donc l'IA, ça n'a rien de nouveau. Les entreprises cherchent en permanence des nouvelles formes de légitimité, des nouvelles sources de légitimité. Pourquoi ont-ils besoin de ça? Quand je vous ai parlé de la création du capitalisme de surveillance, je vous ai dit qu'il fallait que ce soit secret, c'est-à-dire que ces traces comportementales que nous laissons derrière nous et qui deviennent leur matériau brut, il faut absolument que nous n'en soyons pas conscients. Nous n'avions aucune idée que nous donnions autant d'informations sur nous. Ces entreprises ont compris depuis le début que s'ils devaient utiliser ces signaux pour faire de l'argent, il fallait que ça se passe en secret. Si les gens savaient ce qu'ils livraient d'eux-mêmes et ce que les entreprises utilisent, on se rebellerait. Et les législateurs finiraient par s'y intéresser. Et donc, on redéfinirait ces collectes, cette captation, comme du vol. Google s'est en quelque sorte condamné à vie au secret. Ce qui signifie aussi qu'il faut mentir, qu'il faut soudoyer, qu'il faut développer des formes de rhétorique et de propagande, qu'il faut détourner l'attention de façon à ce qu'on ne comprenne jamais ce qui se passe vraiment. Donc, pour répondre à votre question, François,
in the year 2004,
en 2004,
that's the year that Google went public.
Google est donc a commencé à en parler en public. Et ça a été la première fois qu'on a commencé à savoir un petit peu ce qui se passait dans cette entreprise. Quand ils ont commencé à rentrer dans cette nouvelle logique de monétisation, la marchandisation des comportements humains,
revenue and profit,
comme source de rente et de profit, nous avons appris que le revenu de Google avait augmenté entre 2001 et 2004, qu'il avait été multiplié par 3500%, donc une augmentation massive. Le résultat, c'est que d'autres entreprises ont commencé à se mobiliser avec une grande urgence. Tout le monde voulait savoir ce que faisait Google. Parce que pour attirer des investisseurs, il fallait pouvoir promettre le même type de revenus et de profits. Facebook a été le premier, et puis ensuite le reste du secteur des technologies a suivi. Quand on observe aujourd'hui ce qui se passe avec l'IA, on voit que d'un seul coup, les compagnies ont pris un virage, les entreprises ont pris un virage. Ce virage, c'était de ramener directement l'intelligence artificielle dans l'espace client, dans l'espace consommateur. Si on remonte en 2023, au moment où vraiment tout ça était en train d'exploser, ce qu'on voit comme des promesses extrêmement intéressantes, ce sont ces promesses qu'ils font aux gens. Par exemple, ça va vous aider à faire vos devoirs, ça va vous aider à gérer votre maison, ça va vous aider même à tricher. Ça va vous aider à être meilleur dans votre travail. Ça va vous aider à travailler plus vite, à être plus compétitif. Donc ce qu'ils proposent, ce qu'ils promettent au consommateur final, c'est un outil qui leur permettra de réussir dans une nouvelle manière. Selon moi, ce qui se passe en réalité, le sous-texte de tout cela, c'est que, d'une part, ils analysent toutes les données qui sortent de nos sociétés, que nos sociétés produisent, parce que partout, nous voyons que les gens se lassent de cette surveillance commerciale privée, qu'on en a marre d'être suivi, d'être surveillé en permanence, d'avoir des trackers sur l'endroit où nous sommes, qu'on utilise notre vie privée et qu'on la détruise. Donc il y a eu quand même énormément de résistance dans la société, et c'est vrai aux États-Unis. On a très peu de lois pourtant pour se protéger. C'est vrai aussi en Europe et dans d'autres régions du monde d'ailleurs. Jusqu'au Chili, jusqu'en Corée, on voit des mouvements de résistance. Alors que la société est en train vraiment de se révolter contre le capitalisme de surveillance, nous voyons aussi que les législateurs commencent à vouloir s'y opposer. Et donc il y a effectivement ce Digital Services Act et ce Digital Market Act, ce DSA et DMA en Europe. Le débat a commencé vraiment de façon très intense en 2023 au Parlement européen sur la nouvelle loi concernant l'intelligence artificielle. Tout ça fait peser des contraintes sur le capitalisme de surveillance et risque de le modifier en profondeur. Et même de remettre en question son existence. Il a donc fallu que les entreprises trouvent des nouveaux modèles pour se légitimer. Et c'est là où on en appelle au consommateur final. Et ça devient une nouvelle frontière, en quelque sorte, dans cette entreprise qui vit à développer encore ses projets, ses entreprises et acquérir une légitimité sociale pour 10 ans de plus.
Juste pour bien comprendre, selon vous, donc le déploiement rhétorique aujourd'hui sur la question de l'intelligence artificielle qui est déployé par les GAFAM serait une réponse à essayer de faire survivre ce capitalisme de surveillance qui a été, comme vous l'avez rappelé, largement attaqué ces derniers temps. Donc c'était pour eux une manière de réinventer un nouveau discours, une nouvelle conquête, alors que si on vous lit et si on vous comprend en sous-texte, les mêmes modalités de captation de données sont encore à l'œuvre, peut-être même qu'elles sont encore même amplifiées.
I'm sure you've been reading about
Je suis sûre que vous avez lu des articles sur le nouveau problème existentiel de cette nouvelle vague d'IA. C'est son besoin de données. L'IA a besoin d'informations générées par des humains. L'IA est une machine à dévorer la donnée et il faut la nourrir tout le temps.
And one of the principal concerns within
et
this
field, l'un des principaux problèmes, c'est le risque de manquer de données humaines pour alimenter cette machine. C'est pour ça qu'on prend tous les livres en se souciant peu du droit d'auteur. C'est pour ça qu'on prend tous les visages en dépit des lois sur la vie privée. C'est pour ça qu'on prend absolument tout ce qu'on peut dire, toutes les photos, tous les écrits, tous les films, toutes les vidéos, tout ça, tout ce qui est généré par les humains doit en permanence être collecté pour nourrir ce monstre, cet estomac gigantesque qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant. Parce qu'on voit une forme de renaissance du concept de vol, de pillage des données. Les gens disent « Attendez une minute, ça c'est mon livre. Et j'ai des droits d'auteur dessus. Et vous êtes en train de le voler pour nourrir l'intelligence artificielle. Ou c'est mon film. » Scarlett Johansson, par exemple, dit aujourd'hui « Mais ça c'est ma voix. Vous êtes en train de la voler. » Sam Altman de OpenAI vole la voix de Scarlett Johansson pour nourrir son intelligence artificielle et elle dit « C'est intolérable, ce ne devrait pas être légal. » Donc on voit une renaissance à bien plus grande échelle et beaucoup plus globalement de cette prise de conscience. Il y a une injustice fondamentale au cœur de cette entreprise. Cette idée qu'ils prennent quelque chose de nos vies, ils se servent dans nos vies sans qu'on le sache et donc sans notre consentement. Et ils redéfinissent ce qu'ils ont pris comme un bien appartenant à leur entreprise. Et ensuite, ils l'utilisent pour produire des ventes, produire de la richesse, produire des profits dans leur intérêt et pas dans le nôtre.
Mais vous le dites justement, il y a une vague de résistance qui est forte, parce que vous aviez parlé, lorsque vous avez publié votre ouvrage en 2019, du capitalisme de surveillance avec une forme d'invisibilité des pratiques. Aujourd'hui quand même, on ne peut que constater une plus grande maturité du public, des utilisateurs, vous y avez d'ailleurs participé avec vos travaux, sur justement la visibilité de ces procédés. Vous venez d'évoquer la voix de Scarlett Johansson, qui a effectivement trouvé qu'une des voix d'OpenAI lui ressemblait un petit peu trop. Donc on voit quand même qu'on est dans un mouvement de résistance. Ça doit peut-être vous réjouir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez un peu d'espoir par justement la puissance de cette révolte-là.
Yes. Look, this is a form of capitalism.
Vous voyez, c'est une forme de capitalisme qui s'appuie
stealing
sur le vol
our behavior,
de nos comportements,
stealing
le pillage de nos vies
in order to become wealthy and powerful.
Pour s'enrichir et
when
avoir du pouvoir.
Your raw material
quand le matériau brut, c'est la vie humaine, c'est l'expérience humaine, il y a des conséquences, toutes sortes de conséquences. C'est très différent de quand on coupe un arbre ou qu'on contrôle une rivière. Si c'est l'humain, la matière première, ça veut dire qu'il y a une, il va y avoir une concentration de pouvoir économique et politique, mais aussi une concentration de pouvoir social. Ça veut dire qu'il commence à avoir davantage de pouvoir sur la société et sur nos vies. Les premières étapes, les premières phases du capitalisme de surveillance consistent à rassembler toutes ces données pour prédire nos comportements, ces données qui parlent de nous, mais dans les phases ultérieures, et c'est ce qu'on voit depuis 2 ans du capitalisme de surveillance, on utilise ce savoir pour revenir vers nous avec ce qu'on appelle du micro-ciblage, avec des choses extrêmement précises qui permettent de contrôler, de conditionner nos comportements. Des signes subliminaux, une façon en fait vraiment de micro-cibler nos goûts pour nous inciter dans telle ou telle direction et nous pousser à nous comporter d'une manière qui est à l'avantage de leurs intérêts commerciaux. Ce qu'on a appris, c'est que les acteurs politiques, y compris des dictateurs et des agents étrangers, tout le monde peut, par exemple, faire de la publicité sur Facebook. Tout le monde peut avoir accès à ces données et utiliser ces techniques de ciblage pour contrôler et influencer le comportement humain. En 2016, dans mon pays, les États-Unis, nous avons vu que la campagne de Trump utilisait ses fonds pour financer des campagnes digitales sur Facebook, des campagnes numériques. Ils avaient une équipe dédiée au sein de Facebook et ils avaient une équipe aussi chez Cambridge Analytica et puis toute l'équipe de Trump, évidemment. Et ils ont monté ensemble un programme extrêmement sophistiqué de ciblage. Ils ciblaient en particulier les citoyens noirs dans les États clés, les swing states, et le message était extrêmement personnalisé pour chaque individu en fonction des données pour persuader chacune de ces personnes de ne pas aller voter. L'idée, c'était de supprimer le vote noir parce que tant que ces personnes-là n'allaient pas voter, ça faisait moins de votes pour Hillary Clinton à l'avantage de Trump. Et ils ont réussi. Au bout du compte, ils ont réussi à réduire de 7% le vote noir. C'est le taux le plus bas jamais enregistré parmi les électeurs.
Juste, pardon, Shoshana, ce chiffre que vous venez d'annoncer, il vient d'où ? Quelle est la source de ce chiffre ?
En fait, je l'ai justement cité dans un article que j'ai publié, un article universitaire. C'est un chiffre qui est fondé sur la recherche et puis aussi d'autres instituts de recherche. Je pourrais vous donner évidemment une copie de cet article. Mais c'est un chiffre qui a été corroboré par plusieurs chercheurs.
Alors c'était intéressant justement que vous reveniez sur la question de Cambridge Analytica et la manière dont ça a influencé effectivement les élections américaines et notamment l'élection de Donald Trump. Un Donald Trump qui à une période était notamment opposé à ce réseau social dont on parle beaucoup ces derniers temps qui est TikTok pour la raison encore une fois d'extraction de données. C'est-à-dire que ces données de ces utilisateurs américains pourraient être compromises et utilisées à des fins politiques et idéologiques par le régime chinois. Aujourd'hui, Donald Trump est plutôt favorable à une non-interdiction de TikTok. J'aimerais avoir votre regard par rapport à ce sujet d'actualité aujourd'hui qui est très présent aux États-Unis avec cette pression parlementaire pour interdire ce réseau social. Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que finalement, ils voient chez les autres ce qu'ils ne veulent pas voir du côté des multinationales américaines. Comment vous la regardez, cette situation aujourd'hui avec TikTok ?
Je suis ravie que vous me posiez cette question. Parce que c'est l'une des grandes énigmes de notre temps. Je vous ai dit il y a peu
Google went down this path,
que une fois que Google avait pris ce chemin, y compris qu'il fallait maintenir le secret pour éviter que tout le monde se révolte, ça les a condamnés à un avenir de mensonges. Cette histoire avec TikTok, c'est un exemple magnifique de détournement de l'attention. Voilà l'idée. On va interdire TikTok parce que le gouvernement chinois collecte, dans le cas présent, les données des utilisateurs américains.
When the US companies
quand les entreprises américaines collectent autant, voire plus, de données en secret à propos de leurs propres citoyens, nos entreprises qui sont nées dans la Silicon Valley et qui sont maintenant complètement globalisées, qui ont une échelle mondiale, ces sociétés-là collecte aussi des données sur les Français, les Anglais, les Allemands et tout le monde, tous les endroits où ils sont actifs. Je vais vous donner une autre statistique intéressante. Google transmet des données chaque jour à l'industrie de la publicité. Ce sont des quantités massives de données qui nous concernent.
And they put it into 400 categories.
Il y a 400 catégories. C'est extrêmement détaillé. C'est extrêmement des données extrêmement intimes et extrêmement personnelles. Google diffuse ces données sur chaque citoyen américain. 747 fois par jour, les données personnelles rangés dans 400 catégories de chaque individu sont diffusés, sont partagés. En Europe, où il y a la meilleure protection de la vie privée, parce qu'aux États-Unis, nous n'avons pas de loi, ou en tout cas très peu, pour protéger cela. En Europe, les mêmes données, ces mêmes 400 catégories, sont partagées 356 fois par jour. Alors, c'est un peu moins, certes. La réglementation fait-elle une différence ? Oui. Est-ce que ça fait suffisamment de différence ? La réponse est non. Parce que ça reste une quantité incroyable et une activité de pillage incroyable et de profit à partir de ces données volées. Et ça existe en Europe aussi bien qu'aux États-Unis. Alors, comment attirer l'attention des gens, au contraire, détourner cette attention justement de ces données fondamentales et vous faire détester la Chine? C'est un discours global de nouvelle guerre froide, une soi-disant nouvelle guerre froide entre la Chine et l'Occident, ou plus précisément les États-Unis. J'ajoute une dernière information qui me paraît pertinente. La Fondation Carnegie pour la paix publie tous les deux ans une étude mondiale de la surveillance exercée par les gouvernements un peu partout dans le monde. Ce que leurs données montrent, c'est que les deux gouvernements du monde qui exercent la surveillance la plus intensive, le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 1 c'est la Chine, et le numéro 2 c'est les États-Unis. En Chine, oui, évidemment, c'est le Parti communiste chinois qui est derrière, mais il s'appuie aussi sur les entreprises capitalistes. En Amérique, c'est de la surveillance privée et commerciale, mais toutes ces données sont utilisées par les services de renseignement des institutions démocratiques américaines, aussi bien d'ailleurs que par des institutions démocratiques européennes. Donc il y a vraiment de la récolte de données sans autorisation grâce à ces entreprises de la technologie qui fournissent des données sur nous.
Voilà, et là on pense évidemment à l'affaire Snowden qui a maintenant un peu plus de 10 ans, mais c'était très intéressant de voir effectivement votre analyse sur TikTok qui encore une fois est une forme de contre-feu pour vous, de diversion de l'attention pour que justement le capitalisme de surveillance à l'occidental, à l'américaine continue à prospérer. Je vous propose une petite pause ou envolée musicale avec une artiste française que vous connaissez peut-être. Elle s'appelle Juliette Armanet et va nous chanter Ce que l'on nous cache. Vous êtes dans Le meilleur des mondes.
France Culture, Le meilleur des mondes, François Saltiel.
Je t'ai montré ce que l'on cache, ce que l'on garde sous la nuit, ce qui reste après la pluie, sous le silence, le bruit. Je t'ai montré ce que l'on cache, ce qui tape dessous ma peau, là dans le beurre, le couteau, sous l'innocence, le cri. Ce que l'on cache tout bas me rapproche un peu plus de toi. Ce que l'on cache, je crois, c'est la vie qui s'attache à soi. Ce que l'on cache, je t'ai montré ce que l'on gomme, ce que l'on donne à personne, ce que jamais je ne me pardonne, là dans l'oreille tous les tomes. Je t'ai montré ce que l'on cache, ce qui reste après l'amour, ce qui se voit en plein jour, ce qui s'arrache, ce qui court toujours. Ce que l'on cache tout bas me rapproche un peu plus de toi. Ce que l'on cache, je crois, c'est la vie qui s'attache à soi. Ce que l'on cache. Sache que tu me gardes sous ta nuit, que tu restes après ma pluie, que nos amours soient dits.
Ce que l'on cache par Juliette Armanet dans Le meilleur des mondes. Et elle aussi, elle se cache un peu, Shoshana Zuboff. Elle n'est pas forcément très friande de photos, de captations de son image. Et on la comprend bien quand on lit justement ses travaux, cet ouvrage de référence que je vous recommande. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore lu, L'âge du capitalisme de surveillance, sorti en France chez Zulma, édition Zulma Essai. Nous sommes avec Shoshana aujourd'hui pour essayer de relire justement ces différents concepts en les mettant en miroir avec les derniers développements technologiques. On pense bien sûr à l'intelligence artificielle, puis on va s'intéresser aussi à la régulation. Mais peut-être, Shoshana Zuboff, pour reprendre l'un de vos concepts également, celui du pouvoir instrumentarien, est-ce que vous pouvez nous le définir, ce pouvoir-là ?
Oui, encore une fois, je suis ravie que vous me demandiez cette définition. On parlait de la campagne de Trump il y a quelques instants et du ciblage sur Facebook grâce aux données, aux milliards de données qui sont utilisées pour empêcher les citoyens de voter, les citoyens noirs, dans le cas de l'élection américaine de 2016. Pensez-y un peu. Personne n'est venu frapper à leur porte au milieu de la nuit pour les menacer de les traîner dans un camp ou un goulag. Personne ne leur a mis un pistolet sur la tempe en disant « si vous ne faites pas ce qu'on dit, vous risquez la mort ». Ces gens ont abandonné, renoncé à leur droit démocratique le plus sacré, qui est le droit de voter, sans même le savoir. Ils l'ont fait parce qu'ils ont été manipulés sur Internet par des messages qui s'adressaient à leurs peurs, à leurs centres d'intérêt, à leurs rêves, à leurs aspirations, à leurs incertitudes, leurs doutes. C'est vraiment une guerre de l'information dont il s'agit. Ce n'est pas la violence politique qu'on a connue pendant d'autres siècles, mais c'est une nouvelle forme de violence politique. Elle est immatérielle.
It doesn't want to break our bodies.
Elle ne s'en prend pas à nos corps, mais elle contrôle nos comportements. Et le médium de cette guerre informationnelle, c'est justement l'architecture, le système mondial de l'information. C'est ce que j'appelle Big Other plutôt que Big Brother. Cette architecture mondiale de l'information qui nous connaît et utilise ce savoir sur nous pour s'insinuer dans nos vies et influencer nos comportements. C'est une forme de pouvoir que nous n'avons jamais connue. Et parce qu'il est invisible et lointain, parce que la manière dont il s'insinue dans nos vies est difficile à voir et donc difficile, il est difficile de résister contre cela, et parce que ce pouvoir est conçu pour échapper à notre conscience, pour nous contourner, nous court-circuiter et faire en sorte qu'on ne sache jamais qu'il est là, parce que c'est conçu pour être invisible et indéchiffrable, incompréhensible, c'est très difficile pour nous de combattre, de résister à ce pouvoir. C'est ça que j'appelle le pouvoir instrumentarien, parce que ça passe par le truchement de l'instrumentation numérique. Mais ce qui est important ici, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus pour notre audience, nos auditeurs, c'est que la technologie, l'infrastructure dont je parle, c'est un moyen, mais ce n'est pas la source. Ce sont les outils d'une nouvelle forme de pouvoir, mais ce sont les entreprises, le capital privé, les gouvernements qui nouent des partenariats avec ces multinationales parce qu'ils ont besoin des données produites. En fait, là, ce dont on parle, ce ne sont pas les technologies, c'est bien du pouvoir. On ne trouvera l'aboutissement de ce débat que dans le monde politique. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend à résister et à contrôler les pouvoirs antidémocratiques. Le pouvoir instrumentarien, c'est une référence à cette architecture qui est le moyen, le médium d'une nouvelle forme de pouvoir qui en sait davantage sur nous que nous n'en savons sur nous-mêmes. Et quand ce savoir devient un pouvoir, il peut être utilisé pour influencer non seulement les comportements individuels, mais aussi à grande échelle, changer la nature même de la société. C'est ainsi qu'on voit la polarisation de nos sociétés et beaucoup d'autres conséquences que nous sommes en train d'affronter aujourd'hui.
Peut-être une petite nuance par rapport à ce super pouvoir. Évidemment, vous le décrivez, vous le documentez très bien. Et peut-être que vous sous-estimez peut-être, c'est une question, le pouvoir aussi du consommateur et de l'utilisateur. Je vais prendre un exemple concret puisque vous parlez justement beaucoup de données personnelles, notamment lorsqu'on interroge les jeunes générations sur ce qu'est leur vie privée, en étant justement en laissant de la donnée sur leur vie privée. Lorsque on interroge cette jeune génération, déjà, elle se soucie peut-être pas autant qu'une la génération précédente par rapport à ces données personnelles et la conservation de leur vie privée, parce qu'elles peuvent imaginer que leur vie privée se joue aussi ailleurs, dans le sens où, quelque part, les frontières de la vie privée se repoussent. Et peut-être que sur ces générations-là, elles n'ont pas forcément l'impression qu'on leur vole leurs données, parce que ces données qui leur sont chères, qui leur sont précieuses, elles savent les conserver, elles savent les préserver. Sachant d'autant plus qu'on est dans une période où les gens sont un peu plus conscients de la manière dont on peut utiliser leurs données personnelles.
Well, that would be wonderful.
Eh bien, ce serait formidable si c'était vrai.
The problem is, François.
Le problème, François,
that we think that privacy
c'est que nous pensons que la vie privée est quelque chose de privé, au sens où on pourrait décider en privé ce que nous contrôlons, ce que nous voulons faire connaître et ce qui nous appartient. En réalité, la grande majorité de ce qu'on nous prend ça se passe d'une façon qui rend impossible toute prise de conscience. Nous n'avons pas conscience des traces que nous laissons derrière nous. Nous n'avons pas conscience de la façon dont simplement en marchant dans la rue, une caméra quelque part saisit notre image et alimente Meta ou Google avec ses données. Jusqu'à abreuver toutes les technologies publicitaires. Quelque chose d'aussi simple que la forme de notre épaule devient un signal extrêmement puissant pour l'analyse de nos émotions avec une puissance prédictive extrême. Ces signaux sont collectés, sont extraits de tous les aspects de nos vies, de tout ce que nous faisons, tout ce qui a un lien avec Internet. Partout, ces informations peuvent être captées par toutes sortes d'outils connectés. Donc nous croyons avoir une forme de contrôle, mais en réalité, il est extrêmement limité. La seule autre remarque que j'aimerais ajouter à ce sujet, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'idée que les jeunes soient moins inquiets ou moins préoccupés par la question de la vie privée. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vie privée. Même quand on remonte à l'année 2000, qui pour moi, à l'âge que j'ai, me paraît être il y a 5 minutes.
What privacy meant in
la vie privée, ce que ça signifiait en 2000, ça n'existe plus. La vie privée, telle qu'on la définissait à l'époque, a disparu. En 2000, moins de 25% des informations étaient stockées.
Now all information is stored digitally.
Maintenant, toutes les informations sont enregistrées, sont stockées quelque part.
This is a world in which we have allowed privacy to be destroyed.
C'est un monde dans lequel nous avons permis la destruction de la vie privée.
Very powerful implications.
Et ça a des conséquences extrêmement fortes sur les choix que nous pouvons faire, sur notre façon de mener notre vie.
Living in a glass house.
Parce que vivre dans une serre, dans une bulle, sous cloche, cela signifie qu'il y a certaines choses de l'ordre du refuge, du sanctuaire, de la vie intime, qui deviennent de plus en plus difficiles à protéger.
Elle existe peut-être hors des écrans, cette vie privée tout de même.
Outside of screens,
oui, en dehors des écrans, en dehors des appareils, oui, mais
in our cities, there are cameras,
mais dans nos villes, il y a des caméras,
microphones,
il y a des micros.
This is the the big debate in 2023 about facial recognition.
Le grand débat de 2023, la reconnaissance faciale dans l'Union européenne. Est-ce qu'on l'interdisait totalement? En fin de compte, on a créé des exceptions. Parce que les soi-disant startups de l'intelligence artificielle ont poussé les législateurs à le faire en disant que ce type de données serait essentiel à leur réussite, parce que c'est plus de matière première à voler.
The real tragedy here.
La véritable tragédie, c'est celle-ci. Nous vivons à l'ère du numérique et c'est une époque où chacun d'entre nous, chacune de nos sociétés, mérite les données. Nous voulons tous l'information, nous méritons tous ce savoir, ces données, ces informations. Nous méritons aussi d'utiliser ces savoirs pour guérir, améliorer nos sociétés, pour guérir les maladies, pour éduquer tous les enfants, pour résoudre la crise climatique. En tant que société, nous en avons besoin de ce savoir. Sauf qu'aujourd'hui, tout le savoir, toutes les connaissances sont concentrées entre les mains d'une poignée de multinationales géantes qui décident de ce qui doit être considéré comme connaissance, qui va pouvoir l'utiliser et pourquoi faire. Ces savoirs ne sont pas utilisés dans l'intérêt de l'humanité. C'est ça que nous devons changer. Nous devons modifier toute la structure, tout le système pour que l'intelligence artificielle, les données, le savoir informationnel soient optimisés pour l'humanité, et non au service de l'intérêt commercial du capitalisme de surveillance.
Et pour ça, justement, la solution, c'est peut-être le régulateur, les politiques qui essayent d'encadrer, qui essayent d'atténuer justement cette puissance colossale des multinationales. Du moins, c'est peut-être à cet endroit qu'on peut essayer de chercher un petit espoir, Shoshana, car je le vois à votre visage souriant et enthousiaste. Vous êtes, vous aussi, en quête d'espoir et en volonté que les choses changent. Et pour ça, peut-être qu'il y a Juliette Devaux. Bonsoir, Juliette.
Bonsoir.
Alors, Juliette Devaux, c'est pas Juliette Devaux qui va sauver le monde, mais c'est Juliette Devaux qui va nous rendre compte, justement, des différents textes en vigueur qui tentent de contrer cet pouvoir des multinationales, et notamment un, Juliette, celui du DMA.
Oui, parce qu'on parle beaucoup ces derniers mois du Digital Services Act qui impose de nouvelles obligations de transparence aux plateformes, mais on parle moins de son cousin, le Digital Market Act, jugé plus complexe car relevant du champ nébuleux du droit de la concurrence. Or, une lecture plus attentive de ce texte moins médiatisé nous apprend qu'en restreignant l'empire économique de ces big tech, le DMA pourrait aussi nous aider à reprendre la main sur nos données. Pour rappel, le DMA est entré en vigueur en mars dernier et poursuit un objectif relativement simple, imposer aux grands groupes tech comme Alphabet, Amazon ou Meta, qualifiés de gatekeepers, de nouvelles obligations pour assurer un accès plus équitable au marché. Et pour atteindre cet objectif, le législateur européen a décidé stratégiquement de s'attaquer au cœur de l'activité économique des big tech, leurs revenus issus de la publicité ciblée.
Et un article en particulier du DMA a retenu votre attention.
Et oui, c'est l'article 5, François, du DMA qui porte un coup décisif au modèle économique structurant les big tech. L'article prévoit que ces entreprises ne pourront plus croiser les données personnelles des utilisateurs naviguant sur les différents services qu'elles proposent. Alors concrètement, cela implique par exemple que Meta ne puisse plus croiser les données de ses utilisateurs recueillies sur ses réseaux Instagram et Facebook sans obtenir un consentement explicite. Or, Meta, comme la plupart des entreprises du numérique, capitalisent depuis des années sur les liens entre leurs différents services pour obtenir des données variées basées sur nos navigations et revendre auprès des annonceurs des profils utilisateurs précis. Autre mesure prévue par le DMA qui pourrait atteindre leur modèle basé sur l'extraction et le croisement de nos données personnelles, le droit à la portabilité des données. N'importe quel individu doit pouvoir désormais demander à une plateforme de transférer l'intégralité de ses données sur un service concurrent sans perdre son historique. Autant de mesures qui, pensées dans le cadre du RGPD, devraient permettre aux utilisateurs européens de reprendre la main sur leurs données après des années de vampirisme des entreprises de la tech.
Et aux États-Unis, Juliette, le procès historique opposant le gouvernement américain à Google, que Shoshana Zuboff connaît bien, pourrait aussi remettre en cause son modèle de publicité en ligne.
Eh bien oui, si ce procès a finalement peu de chances d'aboutir à un démantèlement, certains observateurs considèrent qu'il pourrait être l'occasion de s'intéresser aux activités publicitaires de Google, à l'origine, rappelons-le, de 3/4 des revenus de la firme. Comme le souligne l'économiste Joël Toledano, Google définit depuis des années le prix des enchères publicitaires, auto-évalue l'efficacité de ses campagnes et est lui-même annonceur. Une situation qui le place dans une situation plus que de monopole, de conflit d'intérêts. Si le gouvernement américain demandait à la firme de séparer ses différentes activités ou d'y renoncer, il y a fort à parier que son empire économique en sortirait durablement ébranlé. Entre impact du DMA à l'échelle européenne et politique antitrust aux États-Unis, et si, plus que l'intelligence artificielle, c'était finalement le vieux principe de régulation du marché par l'État qui allait nous permettre de penser un nouveau modèle économique pour le web de demain.
Merci Juliette pour ces rappels salutaires donc du continent européen jusqu'aux États-Unis où il y a tout de même, Shoshana Zuboff, une pression que l'on n'avait pas vue depuis très longtemps, justement, pression des régulateurs. Alors vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous l'avez suivi, vous l'avez même mentionné, ces deux règlements européens du DSA, du DMA sont entrés en vigueur il y a seulement quelques mois. On voit qu'aux États-Unis il y a une pression très forte face à Google. J'imagine que cela doit vous réjouir. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette phase de régulation? Quels sont vos espoirs? Je me doute que vous êtes lucide sur ce que le politique peut faire et peut ne pas faire, mais quels sont vos espoirs?
Je pense que les réglementations, la régulation décrite par Juliette est extrêmement importante. C'est vraiment une étape clé, une avancée majeure, et c'est certainement la nouvelle frontière aujourd'hui pour essayer de contrôler l'activité de ces multinationales et commencer aussi à les mettre en conformité avec les principes et les attentes démocratiques, les valeurs et les normes de nos démocraties. Mais il y a un problème.
If you think about what Juliette just said,
si on réfléchit à ce que Juliette vient d'expliquer, imaginez le nombre de fois où elle a utilisé le mot « données ». On va faire ça avec les données, peut-être utiliser les données de telle façon, etc. etc. À chaque fois qu'on parle de régulation, on parle d'une négociation. Avec ce phénomène que j'ai baptisé capitalisme de surveillance. Donc si vous mettez une contrainte d'un côté et une contrainte de l'autre, un peu comme des rambardes de chaque côté, ce sont des lois, en fait, qui imposent des limites, des restrictions à la façon dont on peut utiliser les données et quelles données, qui imposent une forme de contrôle de cette utilisation des données. C'est vrai, mais ces lois ne remettent pas en cause l'existence même de ces données. Donc à chaque fois qu'on réglemente, on est dans une négociation. Et cette négociation légitime les parties prenantes, y compris votre adversaire avec qui vous négociez. On ne remet pas en cause le bien fondé de l'existence de ces données. On dit simplement, bah, limitez là, développez plus dans ce sens, faites plutôt comme ça et pas comme ça. La réglementation est une étape nécessaire, il fallait le faire et c'est ce qu'il fallait faire en premier. Mais ce n'est qu'une étape sur un chemin qui est encore très long. Il faut qu'on remonte aux sources, qu'on revienne au début. Au début, c'était le pillage. C'était du vol. On prend nos vies, on se sert de l'expérience humaine, du vécu humain, au profit du revenu et de l'intérêt privé, de ce pouvoir instrumentarien, de cette façon de manipuler, de contrôler la société. Et ça, ce n'est pas acceptable. Au départ, aux États-Unis, nous avons des dirigeants démocratiques, les dirigeants démocratiques en Europe aussi, dès le début, dès 1997-1998 jusqu'en 2000-2001, ou vraiment dans les premières phases de l'émergence de ce phénomène, ces dirigeants démocratiques auraient dû intervenir et comprendre cette modification, ce basculement dans l'univers numérique. Et nous aurions dû, à ce moment-là, décider de ce que ça signifiait d'avoir un 21e siècle qui soit à la fois numérique et démocratique. Nous aurions dû définir les droits dont nous aurions besoin, les lois dont nos sociétés auraient besoin, les institutions dont nous aurions besoin pour contrôler tout cela. Au 19e siècle, au 20e siècle, on a inventé le droit du travail, le droit des travailleurs, le droit de grève. On a déjà fait ça. On a inventé des institutions pour accompagner ce nouveau monde du capitalisme industriel, pour le rendre sûr et pour que nos démocraties puissent exister et même s'épanouir dans ce type d'environnement. Nous ne l'avons pas encore fait. Et il faut faire ce travail pour le 21e siècle. Donc ce que je vois, c'est que ces avancées remarquables du Parlement européen, de la Commission européenne, c'est là-dessus qu'on doit tous s'appuyer et ça doit être notre refuge pour avancer. Mais il faut continuer à avancer et passer de la réglementation à l'abolition. Il y a des activités qui sont fondées sur le secret et sur l'extractivisme massif et clandestin des informations générées par les humains.
Alors, juste, Shoshana Zuboff, est-ce qu'on arrive à la fin de cette émission et ça va être ma dernière question. Je ne sais pas si du côté des États-Unis vous êtes au courant, mais ici dans cette émission, dans le meilleur des mondes, j'ai un pouvoir, un super pouvoir. Et là, je vais vous nommer Shoshana Zuboff, présidente des États-Unis. Vous l'êtes. Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à tout ce que vous avez analysé, tout ce que vous venez de nous dire? Quelles mesures vous mettez en place pour arriver à rééquilibrer les choses et pour arriver à essayer de rendre, justement, le monde meilleur?
C'est une question formidable pour conclure notre discussion. Comme je l'ai dit, passons de la réglementation à l'abolition.
When you take all of humanity's data and give it to private companies,
toutes les données humaines pour les donner aux multinationales privées, tous ces savoirs créés dans notre nouvelle civilisation de l'information appartiennent à des intérêts privés, sont gérés par des entreprises privées au profit d'un petit groupe de multinationales qui a un pouvoir immense sur nos sociétés et notre avenir. Ceux qui possèdent le futur de l'information possèdent aussi le futur de la société dans notre civilisation de l'information. C'est notre monde. Donc moi, ce que je fais, ce que je ferai, c'est travailler avec les citoyens et avec les dirigeants politiques pour créer les institutions qui permettent de financer nos universités, de financer nos villes, nos municipalités, pour créer des intermédiaires institutionnels qui soient des institutions créatrices de connaissances, de savoir. Et pour que chaque citoyen ait l'occasion de partager des données de façon volontaire selon leur bon vouloir. Voyons par exemple que l'exemple de ma propre famille. J'ai plusieurs proches qui ont eu un certain type de cancer. Si par exemple je veux partager le matériau génétique de ma famille avec les chercheurs qui essaient de trouver un remède à ce cancer, je peux le faire de façon volontaire. Ce qui se passe au contraire aujourd'hui, c'est que Google, Apple, Microsoft, Amazon et d'autres entreprises récupèrent déjà mes données de santé, mais sans que je le sache et sans ma permission. C'est ça qui est problématique. Donc on doit commencer par les droits, définir les droits dont ont besoin nos citoyens, le droit au savoir, le droit à la connaissance, le droit à la vie privée, le droit de décider ce qu'on fait de nos données. Ensuite, on développera le système institutionnel qui permettra de partager ces données de façon à construire de nouveaux processus de production de connaissances. Et ces connaissances, pour qu'elles soient utilisées pour améliorer la qualité de vie pour les gens, pour nos enfants, pour les malades, pour la planète, pour tous les besoins urgents auxquels nous devons répondre, pour rendre la vie meilleure. Et créer les bases d'un avenir numérique et démocratique. On appelle ça le bien public, François. Le numérique au service du bien public, appliqué toujours dans un contexte de droits humains, dans un cadre de droits humains. Quand nous donnons le pouvoir, quand nous rendons le pouvoir aux gens, quand nous rendons le pouvoir à la société pour libérer les données, les informations et créer ces connaissances ensemble, c'est ça le véritable chemin de l'innovation. On a entendu énormément parler d'innovation ces dernières années. On est censé donner aux entreprises privées une grande liberté pour permettre l'innovation, mais la véritable innovation, ce n'est pas de là qu'elle vient. Ces entreprises n'innovent plus depuis des années. Les véritables innovateurs, ils attendent sur le côté du terrain des centaines, des milliers d'individus qui ont des idées innovantes et qui veulent le faire d'une façon qui ne reproduit pas le capitalisme de surveillance. Quand on commencera à optimiser les choses au service de l'humanité et du bien public, c'est là qu'on aura l'explosion d'innovation qu'on attend tous.
Eh bien, c'était le slogan de campagne de Shojana Zuboff, qui a été donc présidente d'un soir, et on a bien entendu votre première mesure. Merci encore d'être venue au Meilleur des Mondes et d'avoir relu avec nous vos concepts pour pouvoir les mettre en miroir avec le monde qui nous attend et le monde qui bouge, qui est celui d'aujourd'hui en 2024. Je remercie également la traduction brillante de Marguerite Capel. À la réalisation de cette émission, Perret Legras, avec au son Ludovic Auger, à la préparation comme d'habitude Juliette Devaux, accompagnée par Ludine Storelli. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Meilleur des Mondes, et à très bientôt, Shoshana Zuboff.
Merci beaucoup, Françoise.